France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Hier a débuté le Téléthon, l'occasion de vous raconter une belle histoire. Nous allons avec mon invité parler de patients, de chercheurs et de découvertes. Un petit rappel, une maladie est dite rare quand elle concerne moins d'une personne sur 2000, mais comme il en existe un peu plus de 7000, ce sont 3 millions de patients qui sont touchés en France, 35 millions en Europe, 300 millions dans le monde, et parmi eux un grand nombre d'enfants. Encore deux chiffres concernant ces malades, près de 50% n'ont pas de diagnostic et 85% ne bénéficient pas de traitements thérapeutiques efficaces. Alors bien sûr, depuis plus de 30 ans qu'existe le Téléthon, de nombreuses maladies ont été identifiées, certaines comprises, quelques-unes traitées, notamment par la thérapie génique. Mais la thérapie génique, si porteuse d'espoir, n'est pas, loin de là, la seule solution pour ces patients. Parfois, c'est l'utilisation d'un médicament connu pour tout autre chose qui peut s'avérer la solution. Et c'est le cas que l'on va vous raconter aujourd'hui avec celui qui est à l'origine de cette découverte. Professeur Guillaume Cano, bonjour.
Bonjour Marina.
Vous êtes néphrologue à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Vous dirigez le laboratoire de médecine translationnelle et thérapie ciblée de l'hôpital Necker, donc Enfants Malades. Vous avez également copiloté le 4e plan national sur les maladies rares qui a été dévoilé en février dernier. Pour cette découverte dont on va parler, vous avez reçu de très nombreux prix, dont le prix Innovation de l'Inserm et le prix Lynn-Renault-Loulou-Gasté pour la recherche médicale avec le soutien de la Fondation pour la recherche médicale. C'était en 2019 et cette année, le prix a été remis à un de vos confrères, néphrologue également. Également, qui est le professeur Alexandre Loupy, spécialiste de la transplantation rénale. Voilà, j'ai presque tout dit. Si ce n'est que cette néphrologie, c'est la spécialité médicale qui s'intéresse au fonctionnement des reins et à leur maladie. Pourquoi vous avez choisi cette spécialité ?
C'est une spécialité, moi, qui m'a toujours attiré. C'est une spécialité que l'on qualifie de complexe, où il y a beaucoup de désordres qui sont associés aux maladies rénales. On peut à la fois comprendre comment les maladies se développent, on peut essayer d'intervenir d'un point de vue thérapeutique, et c'est une prise en charge de patients au long cours. Donc, on peut accompagner les gens dans divers domaines, de la transplantation, l'hémodialyse, ou essayer de ralentir la progression de l'insuffisance. Donc, ça m'a beaucoup attiré.
Quand je faisais mes études à Necker, on disait qu'avec l'immunologie, c'était vraiment les spécialités intelligentes. Genre, il faut vraiment être intelligent pour les faire. Votre vie professionnelle a basculé en 2015, lors de la rencontre avec un de vos patients, Emmanuel. On va y venir, mais juste quelques précisions avant sur ces maladies rares. Je disais, on en connaît environ 7000. Il y en a plus ?
Alors, c'est pas très clair. Entre 7 et 10 000, probablement. Et comme vous l'avez souligné, il y a environ 85% de ces pathologies qui sont d'origine génétique.
Et quand elles ne sont pas d'origine génétique, elles sont de quelle
origine ? Elles sont d'origine plus complexe, il y a beaucoup d'auto-immunité, c'est-à-dire que les patients développent des anticorps contre leurs propres organes.
Quand on dit d'origine génétique, ça veut dire qu'il y a un gène qui dysfonctionne ou plusieurs gènes ?
Alors dans l'immense majorité des cas, c'est un seul gène qui dysfonctionne, qui la plupart du temps est défaillant, c'est-à-dire qu'il n'est pas là. On va en discuter après, mais il y a quelques cas où le gène est là, mais il travaille trop. Et il arrive dans des cas très rares que ce sont des maladies dites polygéniques, où vous pouvez avoir une association de plusieurs gènes ensemble qui dysfonctionnent et qui aboutissent à une maladie.
Alors quand il y a un gène, effectivement, on comprend l'espoir qu'on a mis dans la thérapie génique. Si on connaît ce gène défaillant, on peut le réparer ou corriger les conséquences de l'anomalie. Depuis qu'on a découvert un peu tout ça, ça a fonctionné pour certaines maladies.
Alors oui, il y a un certain nombre de pathologies maintenant qui commencent à être traitées, presque en pratique clinique quotidienne. Des pathologies telles que l'amaurose de Leber, telles que l'adrénoleucodystrophie. On évolue aussi également sur la drépanocytose et autres. Donc oui, il y a des thérapies géniques qui fonctionnent ou des maladies neuromusculaires telles que l'amyotrophie spinale infantile.
Alors c'est vrai, je le disais au début du Téléthon, on avait vraiment l'espoir avec la thérapie génique, en gros, de pouvoir guérir quasi toutes les maladies génétiques dès qu'on aurait trouvé les gènes défaillants. Ce principe, il existe toujours ou pas ?
Alors, il existe toujours pour les maladies dites constitutives, c'est-à-dire quand la maladie touche presque toutes les cellules du corps. Pour les pathologies que je vois moi au quotidien, qui sont des pathologies génétiques dites en mosaïque, où seulement certaines parties du corps sont touchées, il est pour le moment pas possible d'arriver à développer une thérapie génique.
On essaye d'y travailler. Pourquoi ça change quoi ?
Alors en fait, il faut arriver à cibler juste un petit nombre de cellules sur une partie du corps, à faire pénétrer le gel correcteur juste dans certaines cellules sans affecter le reste de l'organisme.
Alors, il y a d'autres solutions, justement, on en parle. Je le disais, votre rencontre avec Emmanuel a été déterminante. Il avait 27 ans quand il est venu vous consulter. Racontez-nous cette rencontre.
Alors, comme vous l'avez mentionné, moi je suis néphrologue à l'origine, donc je m'occupe des pathologies rénales initialement. Et en 2015, Emmanuel est venu nous voir à l'hôpital Necker Enfants Malades, puisqu'il avait une pathologie rénale avec beaucoup de protéines dans les urines, une dysfonction des reins. Et une maladie déformante que l'on appelait à l'époque le syndrome de Cloves, qui est une pathologie qui donne des tuméfactions bénignes, mais qui peuvent être très volumineuses et qui peuvent, dans un certain nombre de cas, engager votre pronostic vital si ça comprime des organes ou si ça entraîne des symptômes tels que des saignements à répétition.
On avait d'ailleurs évoqué, à tort et de manière très plaisante, Elephant Man pour décrire ses patients à une époque. C'est effectivement discriminant pour ses patients.
Tout à fait, on ne donne plus de nom d'animaux aux pathologies maintenant.
Comment il allait à l'époque ?
Alors, Emmanuel, quand il est venu nous voir, il avait une pathologie qui était relativement avancée, avec une dysfonction rénale sévère et ses malformations qui avaient beaucoup progressé au fil du temps, une grande fatigue, des difficultés pour se mouvoir au quotidien, et une pathologie qui était inaccessible à de la chirurgie ou à d'autres moyens thérapeutiques tels que de la radiologie interventionnelle et les traitements symptomatiques ne fonctionnaient pas. Donc il avait une pathologie...
Juste pour qu'on comprenne bien ces excroissances, ces tuméfactions certes bénignes, mais bon, qui sont déformantes et donc difficiles à vivre socialement quand ça touche le visage, mais quand, à l'intérieur du corps, c'est quoi le problème ?
Alors ce sont des tuméfactions qui touchent n'importe quel type de tissu, donc vous avez des tissus qui se mettent à proliférer en excès, donc vous avez une malformation qui apparaît, qui peut toucher un bras, une jambe, ça peut toucher de la graisse à l'intérieur du ventre, mais également des vaisseaux qui peuvent se mettre à proliférer de manière excessive et être responsables du coup de symptômes relativement invalidants pour les patients.
Alors vous l'avez dit, il ne pouvait pas être opéré parce que c'est ce qu'on proposait essentiellement à l'époque à ces patients.
Exactement, en 2015. Donc le gène avait été identifié 2 années plus tôt en fait par une équipe américaine à Boston. Et donc à cette époque-là, on ne proposait que des soins de support, c'est-à-dire des traitements symptomatiques contre la douleur, contre les saignements ou les antibiotiques anti-désinfection, mais également des traitements agressifs puisqu'on parlait de chirurgie dite mutilante, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quoi d'autre offrir à ces malades-là. Donc, ils étaient opérés pour essayer de retirer ces malformations. Malheureusement, ces malformations, elles sont volumineuses.
Et elles repoussaient ?
Et effectivement, quand on enlève une partie de la malformation, les chirurgiens font le maximum de ce qu'ils peuvent faire, et il reste toujours des cellules malades, finalement. Et une fois que la malformation a été retirée, ces cellules malades vont être excitées, entre guillemets, par l'inflammation produite par la chirurgie. Et dans les mois, années qui suivent, ces malformations reviennent, différentes des précédentes, mais elles reviennent, elles sont associées à encore plus de symptômes, et elles vont gêner par la suite la pénétration des traitements médicamenteux que l'on essaye maintenant de développer.
Et c'était quoi le pronostic de ces patients ?
Alors c'est très difficile de dire puisque maintenant on essaye de distinguer en fait 3 grandes situations pour ces patients-là. Il y a des patients qui ont des formes extrêmement bénignes, donc c'est environ 25% des patients que je vois, qui ont des formes où ils ont par exemple juste un doigt touché, on appelle ça une macrodactylie ou un orteil. Ça peut être fonctionnellement très handicapant, mais ça n'engage pas la vie des malades. Il y a des formes extrêmement graves, comme celle qu'avait Emmanuel et comme un certain nombre de patients, c'est environ 25% de nos patients, où là, les patients sont hospitalisés très régulièrement, sont exposés à des chirurgies mutilantes, ont un pronostic qui peut être engagé parfois à court terme. Et puis, il y a environ la moitié des patients, donc 50%, pour lesquels la pathologie est là, elle progresse, donc on les surveille de près, parce qu'on ne sait pas très bien vers quel côté ils vont basculer. Est-ce que ça va rester stable ? Ça ne s'améliore jamais spontanément. Ou est-ce qu'au contraire, ils peuvent s'aggraver brutalement ?
Il marchait encore à l'époque, quand vous l'avez vu ?
Non, Emmanuel était paraplégique depuis une bonne dizaine d'années déjà, à cause d'une masse qui avait comprimé la moelle.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Vous vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose pour lui ?
Alors oui, Emmanuel, quand il est venu nous voir, donc on était en septembre 2015, il vient avec cette dysfonction rénale, cette insuffisance rénale relativement avancée, ses symptômes liés à ses malformations relativement sévères. On discute de son dossier avec un peu tout le monde, à voir si on pouvait lui proposer de l'hémodialyse, justement pour remplacer le bon fonctionnement des reins, de la transplantation rénale, transplantation cœur et rein, puisque le cœur dysfonctionnait sévèrement également. Malheureusement, donc on vient tous qu'on ne peut rien faire, donc on va juste proposer des soins de support. Donc c'était une nouvelle assez terrible à encaisser. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi je venais d'obtenir un financement européen pour de la recherche. Donc je créais ma petite équipe de recherche, j'avais déjà fait de la recherche auparavant, mais je revenais des États-Unis. Et ce garçon était très attachant, il a un cerveau qui fonctionne extrêmement bien, avec un corps qui malheureusement dysfonctionnait. Et je suis retourné au laboratoire, ça m'intéressait cette maladie qu'il portait. Je connaissais un peu cette fameuse protéine PIK3CA dont on entend parler justement, qui était malade chez lui, parce que j'avais travaillé sur
la défaillance d'un gène.
Exactement.
Qui donnait cette
problème
de cette protéine.
Exactement, c'est une défaillance. En fait, ce gène travaille trop.
D'accord.
PIK3CA est malade et il est trop actif comparé aux autres maladies où justement les gènes sont déficients. Et donc, je retourne au laboratoire, j'essaye de chercher un peu sur Internet qu'est-ce que c'est que cette mutation, pourquoi, moi, dans ce qui m'intéressait, c'était dans les maladies rénales, elle pouvait être anormale, et là, chez lui, ça donnait des malformations, et je me rends compte qu'en fait, que cette pathologie, elle est associée à de très nombreux cancers. On la retrouve dans un tiers des cancers du sein, un quart des cancers du côlon,
etc. Cette mutation génique ?
La mutation génétique, celle qu'il portait, est retrouvée de manière très fréquente, dans les cancers. Ça, on appelle ça un cancer driver, comme les Américains l'appellent. C'est environ 30 à 40% de l'ensemble des cancers qui portent la même mutation que celle que porte Emmanuel.
Et juste si j'essaye de vous suivre, effectivement dans cette maladie de Clove, ça donne des proliférations de cellules et donc des excroissances, enfin des tuméfactions. Est-ce que c'est ça qui explique aussi que les cellules cancéreuses se prolifèrent ?
Tout à fait. En fait, ce gène qui s'appelle PIK3CA, qui donc code pour une protéine, il est malade, il est cassé, j'explique au malade, en position allumée. C'est comme s'il y avait un accélérateur en permanence pour la cellule. Et donc la cellule ne comprend qu'une chose, c'est qu'elle doit grossir et se multiplier et proliférer en excès. Dans le cancer, il y a de multiples mutations, c'est-à-dire que PIK3CA malade est là, mais seul, il ne suffit pas. Il faut qu'il y ait d'autres mutations pour que la cellule se mette à disséminer après ailleurs.
Et alors, du coup, votre idée a été quoi, une fois que
alors,
vous avez découvert ça?
Quand je vois que cette mutation est relativement commune en cancérologie. Donc, on était il y a 10 ans, en 2015, je me suis dit, mais si elle est aussi commune en oncologie, si c'est une mutation dite activatrice, il doit bien y avoir des industriels de la pharmacie qui développent des produits pour essayer de bloquer cette protéine, ce gène qui est trop actif. Et donc, je regardais sur Internet tout ce que l'on peut imaginer. Et là, il y avait effectivement plusieurs molécules en cours de développement, dont une qui était en fin de phase 1 d'essai clinique dans le cancer du sein. C'est-à-dire qu'un laboratoire développait un inhibiteur de ce PIK3CA. Et quand on dit phase 1, c'est-à-dire qu'on le donne à des patientes qui avaient un cancer du sein, et on faisait une escalade de dose, c'est-à-dire qu'on partait d'une dose faible jusqu'à la dose maximale tolérée, pour juste apprécier les effets secondaires. Pas du tout l'efficacité en cancérologie.
Et donc vous dites, je vais tester ça.
Alors, pas aussi simplement, mais il y avait un rationnel intellectuel pour se dire, voilà, ce malade a cette mutation génétique, c'est comme si vous aviez une serrure, il y avait la clé en face. Et il y a un industriel de la pharmacie qui développe une molécule qui peut peut-être faire quelque chose. Donc, intellectuellement, ça paraissait séduisant, mais après, il y avait toutes les barrières administratives, parce qu'on n'avait aucune donnée préclinique pour pouvoir aller discuter avec le laboratoire propriétaire de la molécule. Mais ce laboratoire nous a écoutés. J'allais les voir. Ce laboratoire a un siège en France, puis un siège en Suisse et un grand centre de développement aux États-Unis. Donc, il y a eu beaucoup de discussions pendant 2 mois. Et ce laboratoire a pris un risque considérable parce que ce médicament, enfin cette molécule à l'époque, est en cours de développement pour le cancer du sein, avait un avenir peut-être colossal dans le cancer du sein. Et s'il me mettait cette molécule à disposition pour traiter Emmanuel, s'il y avait le moindre accident, sachant qu'Emmanuel était très fragile, tout s'arrêtait et pouvait peut-être bloquer leur développement dans le cancer du sein. Donc ça pouvait être un accident industriel. Donc le laboratoire industriel a pris un risque considérable.
Donc, vous récupérez cette molécule, Emmanuel commence la prise de comprimés. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je récupère la molécule avec l'autorisation du laboratoire, puis avec l'autorisation de l'agence de santé, parce qu'il a fallu après aller voir l'ANSM pour qu'il nous donne l'autorisation.
Laboratoire.
Et ce que l'on avait décidé de manière conjointe avec l'agence du médicament et avec le laboratoire, c'était Emmanuel, parce qu'en fait, Emmanuel, c'est assez intéressant, il était partie prenante de tout ça. C'est un ingénieur, il a une tête extrêmement bien faite, il est très brillant, et donc il suivait tout ça. Il m'envoyait régulièrement des textos pour savoir où j'en étais dans mes discussions avec le laboratoire. Et donc, il prend un comprimé, enfin, exactement 2 comprimés, début janvier. On commençait avec la dose la plus faible en disant on augmentera si jamais ça ne suffit pas. Et au bout de quelques jours, il m'appelle, il me dit « Guillaume, il y a un truc qui est en train de se passer, je suis moins fatigué, je perds du poids, j'urine beaucoup. » Là, je me dis « mince, il est devenu diabétique parce que c'est un des effets secondaires possibles, donc on le fait revenir à l'hôpital, on vérifie sa glycémie, il n'était pas diabétique. » Et il avait raison, il se passait quelque chose. Alors,
quelques jours.
En quelques jours. Et en fait, c'était assez... Là où on a été plutôt bien inspiré, c'est que je m'étais dit, si ce traitement fait quelque chose chez ce malade-là, ça va juste stabiliser les masses. Donc on a fait beaucoup de scanners, d'IRM, d'échographies, on a fait beaucoup d'examens biologiques, et on a pris beaucoup de photographies d'Emmanuel avant de débuter le traitement. Et puis au bout d'une semaine, quand il est revenu, on a vu que son corps changeait. Et donc on a pu l'objectiver sur des photographies, puis sur des mesures qu'on avait faites, parce que chaque fois qu'il vient, on lui mesure la circonférence du thorax, de l'abdomen.
Ses excroissances diminuaient.
Les excroissances diminuaient. Donc c'était totalement inattendu, parce qu'en fait, dans ce genre de pathologie, on imagine quelque chose qui est figé, il a 27, 28 ans, quelque chose qui est figé, qui ne régressera pas. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. Autant en cancérologie, on peut imaginer une fonte massive. Et d'ailleurs, on s'est dit, mince, il va réagir comme en cancérologie, finalement. Et en fait, on a regardé dans le sang, il n'avait pas les marqueurs habituels de quand il y a une lyse massive.
C'est quand les cellules fondent.
Quand les cellules meurent, exactement. Et lui, les cellules ne meurent pas. Elles réduisent de taille et elles arrêtent de se multiplier.
Aujourd'hui, il va comment?
Il va bien. il va bien puisque début janvier, on va lui faire une petite fête pour les 10 ans de l'introduction du traitement. Donc c'est une mascotte pour nous dans le service. On a plusieurs de mascottes dans le service, mais il vient très régulièrement, il va bien.
Il continue son traitement ?
Bien sûr. Alors, il est malheureusement... Il ne sera jamais guéri. Il est malheureusement pieds et poings liés avec un médicament, celui-ci ou peut-être d'autres dans le futur qui arriveront et qui seront peut-être encore plus performants. Mais on ne guérit pas de cette pathologie pour le moment. C'est juste un frein. Et on a vu chez quelques patients, et notamment patientes qui ont voulu arrêter pour devenir enceinte, que les symptômes reviennent. D'accord. Et les malformations reviennent dès que l'on arrête le traitement.
Alors vous allez le tester sur d'autres patients, notamment sur une petite fille, Ashanti. Vous pouvez nous raconter son histoire ?
Alors, c'est une deuxième mascotte du service. Ashanti, c'est une petite fille qui, je crois qu'elle a 5-6 ans quand on nous la présente. On publie ce travail sur les 19 premiers patients, puis tout le modèle préclinique en juin 2018. Et là, immédiatement, je suis contacté par des chirurgiens viscéro-Necker et neurochirurgien de Necker, puisqu'il y a cette petite fille qui navigue de service en service, qui est paraplégique elle aussi, sur une très volumineuse masse qui est dans le dos. Elle a une asymétrie des jambes avec un tableau qui ressemble effectivement à ce fameux PIC 3CA, mais sans diagnostic. Elle a été opérée plusieurs fois en neurochirurgie, 4 fois, pour essayer de décomprimer la moelle et ça ne marche pas. Et là, les chirurgiens me disent, mais je me demande si elle n'a pas ce syndrome-là comme Emmanuel. Donc on la voit, effectivement, cliniquement, ça y ressemble. On fait une biopsie, un prélèvement dans la zone malade, on trouve la mutation. Et là, ils me disent, il faut que tu la traites parce que cette pathologie progresse et elle va malheureusement peut-être décéder prochainement. Et donc, on fait les demandes d'autorisation, on obtient l'autorisation de la traiter. Là, on traite un enfant, donc c'était... encore différent de ce qu'on a fait avec Emmanuel. Et lorsqu'on la traite, au bout de 15 jours, elle me dit « Regarde Guillaume, j'arrive à bouger mes orteils. » Je dis « Ça, c'est pas possible. » Donc je fais venir les neurologues, neurochirurgiens, on est 3 professeurs, on l'examine. Et on lui dit « Non, malheureusement, ce sont des rétractions parce que tu es spastique, ça fait 2 ans que tu es paraplégique, ça ne récupérera jamais. Nous, on est professeurs, toi, tu es juste enfant, ça ne marche pas. »
Oui.
Et puis en fait, on était complètement dans le faux, puisqu'elle revient 15 jours plus tard, donc un mois après l'introduction du traitement. Et là, elle me dit « Regarde ce que je peux faire ». Donc elle se met debout, avec l'aide de sa maman, elle sort du fauteuil roulant, elle fait quelques pas. Et puis donc là, tout le monde pleurait dans le service. Et ce qui était fou, c'est que mois après mois, elle a progressé et elle a récupéré intégralement.
Mais elle a marché ?
Elle marche normalement, vous la croiseriez dans la rue, vous ne sauriez pas qu'elle était paraplégique. Donc elle a été paraplégique pendant un peu plus de 2 ans. Elle n'a plus de couches, puisque quand on est paraplégique, on a souvent une incontinence qui va avec. Elle n'a plus de couches, elle court, elle saute, elle fait du sport, elle est scolarisée normalement.
Incroyable.
Et donc là, elle a drôlement grandi, parce que ça fait maintenant 8 ans, c'est une ado, une belle adolescente, elle est debout et elle n'a aucune séquelle de cette compression de moelle. On ne pensait pas que ça pouvait être possible d'avoir une compression de moelle comme ça pendant 2 ans sans séquelles.
On va écouter une maman qui témoigne dans la maison des maternelles qui s'appelle Nora. Sa fille Joséphine souffre de ce syndrome et elle a testé cette molécule. Écoutez.
Joséphine a pris la molécule à 11h du matin et 3h après, je dis à Nicolas, le papa, écoute, j'ai l'impression que sa jambe, elle change de couleur. Il me dit, mais non, c'est pas possible, c'est parce que tu sais qu'elle a pris le traitement. Bon. Et peu de temps après, un médecin arrive dans la chambre et là, il me regarde, il me dit, mais sa jambe, elle est en train de changer de couleur. Donc ensuite, on est rentré à la maison et une semaine après, la jambe de Joséphine avait déjà énormément dégonflé. Plus aucune infection suite à la prise de la molécule.
Douleur.
Plus de douleur.
Et comment elle va aujourd'hui ?
Joséphine va très bien. Elle va très bien. Elle a eu ses 3 ans. Elle va à l'école toute la journée. Elle n'a plus jamais été à l'hôpital depuis qu'elle a pris la fameuse molécule. Elle ne prend plus d'antibiotiques. Elle n'est plus sous anticoagulants. Elle porte une chaussure orthopédique parce qu'elle a quand même un décalage entre ses 2 jambes. Sa jambe droite reste plus gonflée que l'autre, mais c'est vraiment minime par rapport au début. Quand on la voit, on ne s'attarde pas forcément sur ça. Et elle est très épanouie, elle a des
copains.
Elle
prend un traitement tous les jours, là ?
Donc, elle prend sa petite molécule tous les matins, hein, qu'elle devra prendre toute sa vie.
Quand on est à l'origine de cette découverte, honnêtement, ça fait quoi d'entendre ça ?
Honnêtement, c'est toujours touchant. Et c'est magique. Et j'ai la chance de vivre ça, en fait. J'ai la chance de vivre ça. Tous les matins en consultation, parce que je vois des malades tous les jours, je vois des gens qui ont des pathologies extrêmement sévères. On voit comme la vie est difficile avec certains, on voit des déformations. À chaque fois, je me dis, c'est le plus sévère que j'ai vu. Et je vois encore quelqu'un d'autre qui va arriver la semaine d'après avec une autre forme encore plus grave. Il y a toujours cette première étape. Et ensuite, on arrive à faire un diagnostic. Et parfois, on arrive à les traiter. Et en fait, toutes ces consultations, honnêtement, on part de très bas. Et au fil du temps, on progresse et on voit le changement de regard des patients. Dans ce que l'on fait, ils sont actifs, ils sont demandeurs de pouvoir accéder à des nouvelles thérapies, à des nouveaux traitements pour essayer de les améliorer. C'est, honnêtement, c'est magique de vivre ça quotidiennement.
Alors, ces découvertes, évidemment, vont être connues et vous allez recevoir des patients du monde entier. Aujourd'hui, donc avec le recul, c'est quoi globalement les résultats de tous ces patients ?
Alors, ce traitement est approuvé aux États-Unis. Il n'est pas encore approuvé en Europe.
Ça veut dire qu'on faut le donner dans un cadre protocolaire.
Exactement.
En Europe.
Pour pouvoir y avoir accès dans des pays hors États-Unis, il faut faire des démarches particulières auprès des agences du médicament de chaque pays. Et en général, le traitement est mis à disposition. Il y a des essais cliniques encore en cours pour prouver son efficacité formellement, et puis dans certaines sous-catégories de pathologies. Donc pour le moment, on a différents types de réponses. On a des patients, c'est un peu comme en cancérologie, qui sont des extrêmement bons répondeurs. On a entendu Joséphine, on a parlé d'Achanti, oui. On a parlé d'Emmanuel. Et on a des patients qui répondent un peu moins bien. Quand les patients répondent moins bien, en fait, on progresse au fil du temps. Justement, on se demande pourquoi ils répondent moins bien. Pourquoi ils répondent moins bien ? D'abord, souvent, on se rend compte que quand on débute chez l'adulte, le traitement est un peu moins efficace que chez les enfants. Ensuite, les patients ont pas toujours la même mutation. Même si c'est PIK3CA, il y a différents types de mutations. D'accord. Ils n'ont pas toujours les mêmes tissus touchés. Par exemple, l'os ne répond pas au traitement,
d'accord.
Alors que les vaisseaux répondent très bien. Et le dernier point, c'est surtout le nombre de chirurgies, on en discutait juste avant, ou le nombre de gestes radiologiques interventionnels, les sclérothérapies, d'accord. On appelle ça. Ça crée des cicatrices et d'accord. Ça gêne par la suite la pénétration des traitements.
Donc on a bien compris que vous avez repositionné un médicament, oui. C'est-à-dire que vous avez utilisé un médicament qui était prévu pour le cancer du sein. Vous avez testé ce principe également avec l'équipe du professeur Laurent Guibaud de Lyon sur des malformations artério-veineuses en utilisant également un médicament anticancéreux. Pourquoi repositionner, c'est plus intéressant que développer un nouveau médicament ?
Alors c'est presque plus simple en fait, paradoxalement. C'est plus simple parce que dans les pathologies que l'on voit, ces pathologies déformantes, vasculaires ou autres encore, syndrome de surcroissance, on trouve des anomalies génétiques qui sont communes avec celles du cancer. On discutait de PIK3CM, on trouve également d'autres gènes. Ce sont des anomalies génétiques uniques. Et les industriels de la pharmacie ont développé des molécules qui bloquent ces gènes malades pour la cancérologie, mais malheureusement en cancérologie, ces traitements sont efficaces de manière très courte, très transitoire, parce que les cellules du cancer sont très intelligentes, entre guillemets, elles arrivent à échapper à ces mécanismes pour essayer de les bloquer en créant d'autres anomalies génétiques.
Mais il y a déjà tout ce début de travail qui est
voilà,
fait.
Voilà, tout ce travail a déjà été fait auparavant, que ce soit en préclinique ou même parfois chez l'homme. Nous, on arrive, la molécule qu'on a utilisée avec Laurent Guibaud est une molécule qui était en phase 3 d'essai clinique, c'est-à-dire qu'elle avait déjà franchi quasiment toutes les étapes. Elle est en train d'être testée dans le cancer du poumon, maintenant elle est approuvée dans le cancer du poumon. Et donc nous, on est arrivé en fin de parcours pour le développement de cette molécule de cancérologie et on connaissait les effets secondaires. La chance que l'on a, c'est qu'on puisse utiliser ces molécules seules, elles fonctionnent bien. Les patients n'échappent pas au traitement parce qu'en fait, les cellules n'arrivent pas à développer d'autres anomalies. D'accord. Et surtout, on l'utilise à des doses faibles, donc on a moins d'effets secondaires que ce qui est utilisé en cancérologie.
Je vais vous faire réagir maintenant à une chronique sur la génétique, la chronique avec science. À l'occasion du Téléthon, Alexandra Delbo s'intéresse à l'un de ses laboratoires directement financés par les dons récoltés, le Généthon. Écoutez.
Carnet de santé.
Pourquoi le Généthon est-il un laboratoire assez unique dans la recherche française ? Ce week-end a lieu le Téléthon, un marathon télévisuel qui vise à récolter des fonds pour la recherche sur les maladies rares. C'est un concept importé depuis les États-Unis. En 1987, la première édition avait permis de réunir 175 millions de francs, soit 30 millions d'euros. Et avant cela, la recherche sur les maladies neuromusculaires et les maladies rares était très parcellaire. D'ailleurs, le terme est un petit peu trompeur. Les maladies rares recouvrent des milliers de pathologies et donc elles concernent 3 millions de personnes en France. Mais pris individuellement, elles touchent très peu de patients. Trop peu pour intéresser les industriels ou les laboratoires académiques classiques qui ne pouvaient pas se permettre d'en faire une priorité à cause du fonctionnement même de la recherche. C'est pourquoi, seulement 3 ans après le premier Téléthon, l'Association française de myopathie, l'AFM, a créé le Généthon. Serge Braun est directeur de la stratégie neuromusculaire à Généthon et pendant près de 20 ans, le directeur scientifique de l'AFM Téléthon.
C'est comme ça que Généthon a vu le jour. Généthon a été créé en 1990 avec comme mission initiale, comme mission première, d'accélérer la découverte des gènes. Et Généthon s'est créé en 4 mois, le temps d'un été, transformant un bâtiment qui était dédié à une société d'informatique et l'a transformé en laboratoire. Et ces laboratoires se sont dotés de robots. C'était la première fois au monde qu'on allait utiliser des robots pour couper l'ADN, analyser l'ADN et cartographier l'ADN humain. Et 2 ans après la création de Généton, les premières cartes du génome humain ont été publiées. Ça a été la publication scientifique la plus citée dans le monde pendant pratiquement 10 ans. Et il n'y a pas un laboratoire dans le monde qui n'utilise pas et qui n'a pas utilisé les sondes d'ADN qui ont été créées par Généton, qui sont ces outils qui ont permis de cartographier le génome et d'en accélérer la découverte des gènes.
Maintenant, plus de 5000 gènes sont associés à ces maladies rares. C'est la première étape, absolument indispensable, mais encore de la recherche très fondamentale. La seconde est celle des traitements. Et puisque 80% des maladies rares sont d'origine génétique, l'outil idéal est la thérapie génique. Prendre un morceau de gène sain pour remplacer le gène défectueux et donc les cellules malades. Progressivement, à partir de 1996, Généton s'est transformé en passant d'un laboratoire de génétique pour devenir l'un des premiers à tenter de concevoir des thérapies géniques.
Généton, en tant que tel, a actuellement 13 programmes qui sont au stade préclinique ou clinique. Certains de ces programmes, d'ailleurs, sont devenus des médicaments depuis. Il y a un traitement pour l'amyotrophie spinale infantile qui est une maladie rare neuromusculaire qui paralyse et qui est mortelle dans un très grand nombre de cas à brève échéance. Alors, Généton est grandement dépendant de la générosité publique liée au Téléthon, ça c'est clair, c'est l'essentiel de son budget, même s'il y a des revenus de licence liés à des brevets, mais c'est vraiment un laboratoire très dépendant de la générosité publique. À Généton d'ailleurs, il y a une unité INSERM, donc il y a des liens avec les laboratoires publics, mais Généton est un laboratoire à part, c'est une association, c'est une structure associative organisée comme une biotech à but non lucratif.
Généton agit donc comme une biotech, comme une entreprise de biotechnologie, mais sans la logique commerciale derrière. Et c'est justement là que se situent les principales barrières de la recherche translationnelle. D'abord, la production de thérapies géniques. Il a fallu inventer des procédés qui n'existaient pas. Et Généton en fabrique même aujourd'hui pour d'autres laboratoires. Mais l'obstacle majeur arrive ensuite, avec la mise sur le marché. Généton n'a pas la capacité industrielle de produire des médicaments à grande échelle, et c'est normal. Les grandes industries pharmaceutiques, elles, sont souvent frileuses à investir dans les maladies rares car elles ne sont pas rentables. À cela s'ajoutent les contraintes réglementaires pensées pour des médicaments classiques et qui s'adaptent mal à des maladies qui touchent parfois seulement quelques dizaines de patients. Et le risque concret, c'est que certains candidats médicaments français, financés avec des dons et des fonds publics, ne soient pas accessibles aux patients ou deviennent ensuite hors de prix pour les systèmes de santé. L'exemple le plus connu, c'est le Zolgensma, un médicament de thérapie génique contre l'amyotrophie spinale avec un prix annoncé de 2 millions d'euros l'injection. L'enjeu aujourd'hui, au-delà des avancées scientifiques du Généton, c'est de construire un modèle économique viable pour les maladies rares afin que ces traitements arrivent plus facilement et rapidement jusqu'aux malades.
Alors Guillaume Cadeau, votre réaction ?
Moi, je trouve ça fabuleux ce qui a été fait avec le Téléthon, le Généton. J'ai eu la chance de visiter leurs locaux il y a quelques années. J'ai été bluffé par l'efficacité. Et je trouve que c'est la démonstration de ce qu'on peut faire tous collectivement. La puissance publique, les citoyens, les chercheurs tous ensemble. Et finalement, à la fin, arriver à développer un traitement qui peut peut-être être commercialisé, développé en partenariat avec industriels de la pharmacie. Après, il y a toutes les barrières. On a entendu parler du coût du médicament. Mais je veux dire, quand on voit les résultats de ces thérapies géniques, le traitement n'a pas de coût, c'est une guérison.
Évidemment, vous pouvez donner pour le Téléthon, pour les patients, pour les chercheurs, le 3637 ou téléthon.fr. Merci en tout cas infiniment de nous avoir fait du bien aujourd'hui. Ça fait du bien de pouvoir savoir qu'il y a des patients qui vont mieux, que des patients sont sauvés par ces découvertes. Donc bravo à vous, merci encore.
Merci beaucoup.
Et merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission, à Swat Boukorsa et Julien Moulet qui l'a réalisée et mise en ondes.